On vous donne plus de détails sur ce test de missile balistique chinois qui a atterri tout proche du Fénois ce matin. On s'intéresse à l'obésité et on donne la parole à la jeune surfeuse Tia Zebrowski. Le journal de la mi-journée, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
À la une de l'actualité, ce test de missile balistique chinois qui est tombé tout près de la Polynésie.
Oui, l'armée populaire de libération, c'est le nom officiel des forces militaires chinoises, a annoncé avoir tiré un missile balistique intercontinental aujourd'hui depuis l'île de Hainan en direction de l'océan Pacifique. Un missile équipé d'une ogive factice mais qui est capable de transporter une charge nucléaire. Ce tir est historique puisque Pékin a l'habitude de tester ce genre d'armes à terre sur son immense territoire. D'après le Financial Times, il s'agirait même du premier tir de ce genre depuis 1980. La trajectoire du missile montre qu'il est tombé non loin de la zone économique exclusive de la Polynésie française, à 400 km environ au nord des Tuamotu, à moins de 800 km à l'ouest de Nuku'hiva. Alors quelques heures avant le tir, la Chine avait prévenu les autorités maritimes de différentes zones survolées de potentielles chutes de débris afin que soient émises des alertes aux navigateurs, mais elle n'avait pas précisé qu'il s'agissait d'un missile balistique. Hasard de l'actualité, le consul chinois reçoit ce soir dans une réception Hilton de nombreux notables polynésiens pour fêter les 75 ans de la République populaire de Chine. Interrogé par nos confrères de TNTV, le président Moetai Brotherson s'est demandé s'il s'agissait d'un hasard ou d'une façon de célébrer cet anniversaire. Il a également expliqué avoir écrit au SR et au président de la République pour avoir leurs opinions sur ce tir, savoir s'il était prévu, s'ils avaient été informés au préalable ou pas. Fin de citation. Pour l'heure, l'État n'a pas réagi.
On parle santé, l'obésité touche 36% des jeunes hommes et 46% des jeunes femmes et la prévention est un échec.
C'est le constat d'un rapport de la CTC. Il pointait l'échec de la lutte contre l'obésité et donnait ces chiffres très inquiétants concernant les jeunes entre 15 et 25 ans. Une situation dont on a parlé à l'Assemblée hier où se tenait la deuxième séance de la session budgétaire et le ministre de la Santé Cédric Mercadal a reconnu cet échec.
Je pense qu'on est dans de l'inefficacité. Il y a eu beaucoup de volonté politique de tous nos gouvernements de vouloir gérer ce problème d'obésité dans notre population. On a essayé toutes les méthodes qu'on nous a données, proposées, mais force est de constater aujourd'hui que le résultat est là, notre population, une personne sur deux est dans un état d'obésité et qu'aujourd'hui chez les jeunes, 36% des jeunes hommes sont obèses et 46% des jeunes femmes le sont aussi. Il va falloir qu'on utilise d'autres moyens de terrain.
Alors ce terrain, ce sera jusqu'à 200 personnes spécialisées dans la santé, l'alimentation et le sport. Un réseau de volontaires chargés de faire de la sensibilisation et de l'accompagnement. Ces coachs de vie ou de bien-être seront formés aux questions santé, alimentation, activité physique et sportive. Ils seront certifiés.
C'est pour ça qu'on va lancer un grand programme, comme on a fait dans le domaine dentaire, avec 80 personnes qui sont allées dans toutes les écoles pour expliquer comment se brosser les dents ou mon ami la brosse à dents. Ben, il va falloir faire pareil pour l'obésité, pour que on reprenne les bonnes habitudes pour faire du sport, une meilleure alimentation et on va investir pareil. 80 personnes d'ici le début d'année 2025, puis 180 personnes d'ici fin 2025 pour aller dans chaque quartier, chaque école pour améliorer les choses.
Le ministre de la Santé parle aussi de ce projet de loi sur l'activité physique adaptée. Il doit permettre la prise en charge de sport prescrit par les médecins comme des médicaments. Et puis des lois viendront encadrer la commercialisation des produits néfastes pour la santé. Avec l'interdiction de vente de certains produits aux environs des établissements scolaires par exemple, le sucre comme le tabac, même combat. Et puis le gouvernement veut aussi s'attaquer au problème en tapant au portefeuille. Deux options ont été évoquées. La création d'une nouvelle taxe spécifique avec de nouvelles recettes qui viendraient financer la prévention. L'idée serait de graduer cette taxe en fonction des taux de sucre ou de la nocivité des produits. Il s'agit d'encourager les producteurs locaux à améliorer leurs recettes. Autre option, une augmentation de la TVA, taxer les saloperies. Voilà l'intention du ministre de l'économie avec ces mots.
Ce que je voudrais proposer dès le BP 2025, c'est déjà de mettre de la TVA à 16% sur tous les produits qui sont déjà actuellement soumis à cette taxe sur le sucre. Donc demain, d'un bonbon qui est vendu à 5% de TVA, ça va passer à 16%. C'est augmenter les produits qu'on ne veut pas encourager à plus 11% à la consommation. Évidemment, ça va être inflationniste, mais chacun comprendra que pour les objectifs de santé publique, ça ne pose pas de problème quand il y a l'inflation sur ce genre de saloperie.
Et les ministres veulent aussi s'attaquer aux produits trop gras et trop salés. Et dans l'hémicycle, après la longue lecture des chiffres alarmants de l'obésité, personne n'a réellement contesté les mesures annoncées.
On s'intéresse au futur déplacement de Moetai Brotherson.
Oui, à Paris d'abord, dans la première semaine d'octobre, pour une prise de contact avec le nouveau gouvernement central. L'actualité est chargée hein, pour l'outre-mer, avec les émeutes en Nouvelle-Calédonie et les manifestations anti-Vichère en Martinique. D'ailleurs, pour Moetai Brotherson, on est finalement le bon élève des outre-mer, tant sur le plan économique que social.
C'est un peu le paradoxe qui est le nôtre aujourd'hui, c'est qu'on est finalement le bon élève des Outre-mer. On a une économie qui, malgré tout, se porte bien. On a une situation sociale qui, malgré tout, est positive. Et face à nous, on a d'autres Outre-mer qui sont dans des situations de crise très, très profonde. Il y aura forcément peut-être plus d'attention de la part de l'État.
À noter aussi que le budget Outre-mer 2025 va être réduit de 10% entre l'actualité et les finances en baisse. Il ne sera donc pas facile d'avoir l'attention de l'État. Moëté Brotherson ira ensuite à New York où le cas de la Polynésie française sera entendu le 10 octobre par la 4e commission. Une délégation de 17 membres du Tavini y sera également présente.
Justice maintenant avec la condamnation de l'ancien lagunarium de Punaouya.
Oui, reconnaissable à ses gueules de requins en plastique qui émergent de l'eau, ce lagunarium avait été ouvert en 1986, puis fermé en 2017. Et pourtant, près de 10 requins étaient retenus dans des cages jusqu'en 2022 en toute illégalité. C'est l'intervention des gendarmes qui a permis leur libération et surtout l'action de la fondation Paul Watson, l'ex Sea Shepherd Tahiti. On écoute le trésorier de l'association, Vincent Rivage.
On a fait une enquête pour prouver comme quoi les requins étaient bien enfermés dans des cages et c'est ce qui nous a permis de lancer le procès. Quand on a fait notre enquête, on a pu compter 5 pointes noires, 5 requins pointes noires et 4 requins dormeurs.
Voilà, mais tout ça pourquoi ? Eh bien, la défense n'a pas donné d'explication sur le fait de retenir ces requins. Elle a tenté de démontrer que ceux-ci revenaient d'eux-mêmes dans les cages, ce qui n'a pas convaincu le juge, puisque l'enquête avait démontré que cette hypothèse était peu probable. Pour les bénévoles, il n'y avait aucun avantage à les retenir.
On n'arrive pas à comprendre le but et la réticence justement des gérants à obtempérer à nos demandes de relâcher les requins. C'est que ça leur apportait aucun intérêt. Je dirais même que ça leur a coûté quelques sous, parce que pour que la cage, alors que tu regardes tous les autres cages, sont vraiment toutes effondrées à l'intérieur du lagon. Cette cage-là est encore debout, donc c'est qu'ils devaient quand même apporter un minimum d'entretien à cette cage. La seule chose qui se passait, c'est que les déchets de poisson du restaurant attenant servaient de compléments alimentaires entre guillemets pour les requins.
Voilà, du feeding totalement interdit, ce qui a entraîné la condamnation pour perturbation intentionnelle d'espèces protégées. La société et sa gérante ont été condamnées à 500 000 francs d'amende avec sursis. Par ailleurs, de nombreux déchets métalliques provenant des trois autres anciennes cages qui retenaient autrefois d'autres espèces aquatiques seraient toujours à l'abandon au fond de l'eau. Rappelons que Paul Watson est toujours incarcéré au Groenland. Il risque l'extradition vers le Japon, qu'il accuse d'être responsable d'incidents avec leurs baleiniers. Un concert est organisé au 3B le 1er octobre pour les soutenir, la veille d'une audience devant la justice danoise. L'occasion donc de rencontrer la fondation Paul Watson.
On passe au sport, la surfeuse Tia Zebrowski s'est confiée à la rédaction de Radio 1.
Et oui, à seulement 13 ans, la jeune surfeuse d'origine polynésienne est le grand espoir du surf français. Championne d'Europe des moins de 16 ans, vice-championne du monde des moins de 18 ans, elle performe déjà chez les adultes. Après avoir remporté 3 étapes du QS, le 3e échelon mondial, elle est d'ores et déjà assurée de participer au Challenger Series l'an prochain. Ce sera la 2e division, c'était d'ailleurs son objectif en début d'année.
C'est l'objectif de passer dans les Challenger Series. Et puis je m'attendais pas à que je gagne 3 QS, tous les 2 QS 3000 et tout. Mais je me sentais déjà prête et j'étais sûre d'être qualifiée. Puis après, j'ai gagné le QS en Angleterre et à Pantin. Là, mon objectif, c'était plus d'être qualifiée sur les Challenger Series, mais d'être première européenne. Et puis pour l'instant, ça c'est pour l'instant, normalement c'est sûr. Donc super contente.
Tia Zebrowski, la jeune adolescente, qui est la fille de l'ancien snowboardeur olympique Gary Zebrowski. Elle vise à terme le Championship Tour et les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Elle n'aura alors que 17 ans, mais concourir contre des surfeuses plus âgées ne la dérange pas, bien au contraire.
Oui, je préfère actuellement surfer et faire des compétitions contre les filles plus grandes. J'aime bien, ça me met du challenge, ça me fait monter mon niveau dans mes séries plus hautes, ce qui fait que ma technique évolue plus vite petit à petit. Puis après, je me sens bien en confiance et tout. Et puis, j'aime beaucoup être la plus jeune et battre les plus grandes. Et ça me rend super contente. Et puis voilà.
Tia Zebrowski qui est cette semaine à l'affiche du Quicksilver Festival, un événement amical organisé par Jérémy Flores à Osgore. On y trouve notamment Vaine Fierro et Kaoli Vast. En tout cas, vous pouvez retrouver son interview en intégralité sur notre site radio1.pf.
Culture avec ce concert de la paix.
Le conservatoire artistique et le club Sor Optimiste s'associent encore cette année pour la 12e édition de ce concert. Au programme de la tradition, du classique et du lyrisme, cette soirée solidaire permet de soutenir des jeunes femmes méritantes dans leur parcours artistique. Elle est prévue le 4 octobre à la la mairie de Pirée. Pour cette édition, le chargé de communication du conservatoire Frédéric Sibard annonce trois surprises.
Une partie traditionnelle, c'est la tradition, c'est toujours les danseuses de haut niveau du conservatoire et l'orchestre traditionnel qui ouvre. Avec cette année, en plus, juste derrière, les virtuoses du ukulélé du conservatoire. Seconde partie classique avec un de nos professeurs de piano qui a composé 3 heures de musique tzigane qu'il va interpréter avec notre professeur de violon. Troisième partie lyrique avec Peterson Cowan et ses meilleurs élèves. Et puis le chœur des adultes du conservatoire sur les thèmes de la comédie musicale Amarulo Hawaii et ça fait 2 heures de spectacle.
Et à noter que cet événement est le premier des 2 organisés chaque année en collaboration avec le club Soroptimiste International. Le second aura lieu au mois de janvier. Il s'agira du concert de la Journée internationale de la femme qui permet à l'organisme de financer des actions en faveur des associations.
Et on finit par un comique en lune de miel au Fénois.
Et oui, ça se passe plutôt bien si on regarde les dernières vidéos de Thomas Marty, ce jeune humoriste qui s'est fait connaître par ses vidéos sur les réseaux sociaux, qui a ensuite connu un gros succès sur les planches parisiennes et qui est attendu sur la scène du Grand Théâtre dans une dizaine de jours. En attendant, il est en voyage de noces dans les îles du Fénois, un voyage romantique forcément, mais aussi comique puisqu'il multiplie les petites pastilles, comme cette visite chez un habitant de Wahiné où le métropolitain croit retrouver le même garage que chez ses parents.
Ah ben dans le frigo tu retrouves des trucs d'assassin, mais tu sais quand t'as une bouteille qui ressemble plus à un bidon d'huile pour faire la vidange de la bagnole, c'est que le cocktail il s'annonce complicado. Ah t'as des trucs magnifiques, hein. Là t'as le linge, tu tournes, t'as un moteur, 70 chevaux, Yamaha, impeccable. Maman, petit message pour te rassurer, là aussi ils ont du carrelage en trop.
Voilà Thomas Marty dont vous pouvez retrouver les posts sur son Instagram et sa page Facebook, ça marche plutôt fort, plus de 100 000 vues et 40 000 likes cumulés pour ses 3 dernières vidéos au Tuamotu ou au Raromatei. Si vous ne le croisez pas sur une île, rendez-vous donc au Grand Théâtre le samedi 5 octobre. Les billets sont sur ticketpacifique.pf dans les magasins Carrefour et ici à l'accueil de vos radios à Fareouté. Voilà, c'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, on se retrouve à 16h pour un prochain point avec l'actualité locale.
Merci beaucoup Valdemar, on passe à la météo sur Radio 1, restez bien avec